sight. It was dynamite on a cold Saturday night. Ranking and subs, fries top notch. Girls were there to march. It was out of sight. It was dynamite on a cold Saturday night. Kings and queens, prince and princess, everybody. Ranking and subs, rise up not, girls were there to march. Police and priests, none were the least, they all enjoyed the feast. It was out of sight, it was dynamite on a cool, cool Saturday night.
L'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.
Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. Il est 11h en temps universel, 13h ici à Paris. C'est RFI Midi qui commence 2h30 ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux sur tous les continents, au Moyen-Orient aujourd'hui encore. Et un rappel tout à l'heure de l'Union Européenne à Donald Trump qui menace toujours, même s'il repousse son ultimatum à l'Iran, il est illégal et inacceptable de cibler des infrastructures civiles. En attendant, ce sont de nouveau des figures du régime qui sont visées. Téhéran confirme ce matin la mort du chef des services de renseignement. Israël vise aussi le Liban. Un hôpital a été endommagé. Correspondance de Beyrouth dans une heure. Et puis le gouvernement israélien annonce qu'il compte accélérer la production de missiles d'interception. Déclaration après la mort de 4 personnes dont l'immeuble a été touché par un tir iranien à Haïfa. Nous appellerons notre correspondant dans un instant dans le journal. Au sommaire également, un nouveau drame en mer Méditerranée. 70 personnes sont portées disparues. 32 seulement ont pu être secourues après le naufrage de leur bateau parti de Libye pour rejoindre l'Europe. Ce début d'année est particulièrement meurtrier pour les exilés qui tentent la traversée. On déplore déjà près de 700 morts ou disparus depuis le mois de janvier. Nous essaierons de comprendre pourquoi avec l'une des fondatrices de l'ONG SOS Méditerranée dans Afrique Midi, midi et demi, temps universel.
RFI Midi.
Une fin de campagne électorale à toute vitesse pour les opposants en Hongrie. Après 16 ans au pouvoir, Viktor Orban n'est pas en bonne posture. Avant les législatives de dimanche, le parti Tisza pourrait bien gagner l'élection. Alors ses militants donnent tout dans la dernière ligne droite, notamment à Debrecen, bastion du Premier ministre et qui pourrait changer de bord.
On travaillait beaucoup comme sous-traitants pour des entreprises proches du gouvernement. Tout se passait sans problème, on participait aux appels d'offres. On construisait des routes, des pistes cyclables, on rénovait des écoles. Et puis vers 2016, ça a changé. J'ai dit à mon mari, je ne veux plus qu'on travaille pour eux. Ce régime est pourri. À chaque contrat, il fallait leur donner 40% en pot de vin. Et c'était des hautes personnalités qui venaient chercher l'argent, des ministres.
Reportage de notre correspondante en Hongrie, dans la deuxième ville du pays, à écouter dans quelques minutes. Et puis on va parler d'Artemis, évidemment, aujourd'hui. Les astronautes arrivent au cœur de leur mission. Le tour de la Lune, ce sera dans quelques heures. Notre invité, dans un peu plus d'une heure maintenant, nous expliquera ce qu'on attend de cet événement d'un point de vue scientifique. Et dans une dizaine de minutes, on se penchera sur ce qu'en attend le président américain d'un point de vue géopolitique. Parce qu'évidemment, les enjeux dépassent l'observation spatiale. Voilà pour le programme. Bienvenue. Et pour commencer, votre journal, Karine Bellicha, la guerre au Moyen-Orient, désormais l'insulte s'ajoute aux menaces.
Donald Trump s'emporte sur son réseau social et exige des dirigeants iraniens la réouverture, je cite, du putain de détroit d'Hormuz, faute de quoi il promet une nouvelle fois l'enfer aux dirigeants iraniens en les traitant au passage, je cite toujours, d'espèces de tarés. Le président américain menace de s'en prendre désormais aux infrastructures civiles de l'Iran si le régime ne plie pas. En face, Téhéran promet des représailles dévastatrices et poursuit ses attaques de représailles dans les pays du Golfe et en Israël aussi, Michel Paul.
C'est l'une des nuits les plus dures pour Israël depuis le début de la guerre, avec une véritable pluie de missiles et de roquettes sur l'ensemble du territoire israélien, particulièrement touchée la ville portuaire de Haïfa. Dans le nord du pays, un immeuble de 7 étages dans une zone résidentielle a été littéralement pulvérisé hier soir par un missile iranien. Sur place, les secouristes mènent encore une course contre la montre dans une atmosphère de haute tension. Le travail des secouristes est d'autant plus périlleux que l'ogive du missile, une charge massive de 450 kg, n'a pas explosé lors de l'impact. Cette bombe potentielle nichée au cœur des ruines complique chaque mouvement des équipes de recherche et tout le secteur a dû être évacué de ses habitants. Cette frappe directe n'est pas isolée. Une vingtaine de sites ont été touchés à travers le pays, notamment à Tel Aviv, par des missiles à sous-munitions, marquant une escalade d'une violence inédite dans ce conflit. Et ce n'est pas terminé. Les sirènes d'alerte ont à nouveau retenti ce matin dans le sud et le centre du pays, tandis que les tirs en provenance du Liban se poursuivent de manière incessante. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et à Haïfa, ce sont 4 personnes qui sont décédées sous les décombres. Dernier bilan fourni par les secours israéliens.
Et au Liban, Israël a repris le pilonnage de la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah pro-iranien.
Plus à l'est, c'est la frontière avec la Syrie qui a été menacée ce week-end. L'État hébreu a menacé de frapper le point de passage de Masna entre les deux pays. L'armée israélienne accuse le Hezbollah de l'utiliser à des fins militaires et pour faire transiter des armes. Bonjour Claudia Bertram.
Bonjour.
Depuis, ce poste frontière, passage vital entre le Liban et la Syrie, est fermé.
Oui, côté libanais, le poste frontière a été évacué rapidement après les menaces israéliennes. Hier, les installations alentour étaient quasi désertes. De son côté, la Syrie a suspendu temporairement la circulation. Un responsable syrien des douanes a balayé les accusations d'Israël d'une utilisation de ce point de passage par le Hezbollah. Selon ce responsable, il est exclusivement réservé à un usage civil et n'est utilisé à aucune fin militaire. Reste que sa fermeture est lourde de conséquences pour le Liban et la Syrie. Masna est le principal axe de communication entre les deux pays. C'est donc une voie de commerce essentielle et c'est aussi une importante porte d'entrée terrestre du Liban vers le reste de la région. Beaucoup de Libanais ou d'habitants du Liban qui tentent de fuir la guerre empruntent habituellement cette route. Depuis samedi, ils sont contraints d'utiliser d'autres voies. De longues files d'attente de voitures se sont formées hier à des postes frontières plus au nord. En 2024, en guerre contre le Hezbollah, Israël avait déjà bombardé Masna. Le trafic avait été perturbé pendant plusieurs semaines.
Claudia Bertram.
Et les bombardements se poursuivent aussi en Iran.
En attendant l'expiration de l'ultimatum du président américain, pour parvenir à un accord, il a été repoussé à demain soir. Une nouvelle fois, les gardiens de la révolution étaient visés ce matin. Cette fois-ci, c'est le chef des renseignements de l'armée idéologique du régime qui a été tué. L'annonce a été faite par Téhéran. Les chances d'aboutir à un cessez-le-feu semblent faibles et les marchés sont toujours aussi fébriles. Les Iraniens laissent passer au compte-gouttes quelques bateaux dans le détroit d'Ormuz qui reste quasiment totalement paralysé. Les cours du pétrole ont de nouveau ouvert en hausse. La barre symbolique des 110 dollars le baril a même été franchie pour redescendre un tout petit peu en dessous ensuite.
D'une guerre à l'autre, le conflit en Ukraine ne connaît pas non plus de répit.
Au moins 3 personnes, dont un enfant, ont été tuées dans une attaque russe sur Odessa, la grande ville portuaire du pays. 10 civils ont aussi été blessés. Le président Volodymyr Zelensky s'est rendu hier à Damas, une première depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. Cette visite confirme la nouvelle alliance qui se dessine entre la Syrie et l'Ukraine. À Damas, Manon Chaplin.
Au cœur de cette première visite, le conflit régional, la guerre en Ukraine et des discussions autour de l'armement. Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, Kiev cherche à faire valoir son expérience dans la défense antiaérienne, notamment pour contrer les drones de fabrication iranienne Shahed. Ils sont également utilisés par la Russie dans la guerre en Ukraine. Autre sujet abordé, la sécurité alimentaire de la Syrie, toujours affaiblie par 14 années de guerre civile. Un partenariat stratégique avec l'Ukraine, exportateur de céréales, pourrait se dessiner. Annonce également la réouverture prochaine des ambassades de Kiev et de Damas. Les relations diplomatiques avaient été rompues en 2022. La Syrie de Bachar al-Assad était un proche allié de la Russie. Elle avait soutenu Moscou dès le début de la guerre en Ukraine et était allée jusqu'à reconnaître des territoires occupés. La veille, Volodymyr Zelensky s'était rendu en Turquie. L'Ukraine s'inquiète qu'une guerre prolongée au Moyen-Orient ne réduise les livraisons d'armes de ses alliés et que la guerre en Ukraine, elle, ne s'enlise encore un peu plus. Manon Chaplin, à Damas, RFI.
Dans le reste de l'actualité, un tête-à-tête entre Xi Jinping et la présidente du principal parti d'opposition taïwanais. C'est la rencontre qui devrait avoir lieu cette semaine en Chine.
Une rencontre qui suscite la controverse à Taïwan. C'est le premier échange de ce genre en plus de 10 ans. Et malgré les critiques, la dirigeante du KMT, Zheng Liwen, croit pouvoir apaiser les tensions grâce au dialogue entre Taïwan et la Chine. Jules Bois.
Pour les Taïwanais, cette rencontre n'est pas une surprise. Zheng Liwen y travaille ouvertement depuis son élection au KMT il y a moins de 6 mois. Avec sa ligne politique très conciliante avec la Chine, la nouvelle femme forte du principal parti d'opposition à Taïwan ne cache pas son ambition de devenir l'interlocutrice privilégiée de Pékin.
Du point de vue de Pékin, il est impossible de renoncer à Taïwan. La question taïwanaise doit être réglée. Dans ces conditions, il n'y a aucun interlocuteur à qui vraiment s'adresser à Taïwan. Jamais ils ne respecteront la volonté du peuple taïwanais.
Ce qui suscite de nombreuses critiques à Taïwan, ce n'est pas le dialogue interdétroit en soi, mais les conditions imposées par Pékin pour qu'un tel dialogue ait lieu et la crainte que les intérêts de la Chine soient priorisés. Pour la porte-parole du gouvernement taïwanais, Zheng Liwen doit représenter les intérêts de Taïwan.
La réalité est que la Chine continue d'harceler Taïwan et d'envoyer des avions militaires autour de l'île tout en exerçant une forte pression diplomatique. Dans ces conditions, pour tout responsable politique se rendant en Chine pour échanger, nous attendons d'eux qu'ils reflètent véritablement l'opinion du peuple taïwanais.
Avec cette rencontre controversée, le KMT mise beaucoup et espère pouvoir se présenter en seule alternative possible pour apaiser les tensions internationales des trois d'ici les prochaines élections locales en novembre prochain. Jules Bois, Taipei, RFI.
La saison des festivals doit débuter bientôt, en particulier au Royaume-Uni.
C'est une institution estivale dans le pays. À Londres, le festival Wireless, qui doit se tenir à la mi-juillet, a commencé à dévoiler sa programmation. Tête d'affiche, le rappeur Kanye West, qui multiplie depuis plusieurs années les déclarations antisémites. Emeline Vint, le principal sponsor, s'est retiré devant la polémique qui a aussi enflammé la classe politique.
Pepsi ne sponsorisera pas l'édition 2026 du festival Wireless. La marque de soda ne s'explique pas, mais son retrait intervient quelques jours après la publication de la programmation de l'événement prévu début juillet à Londres. Trois dates avec Kanye West en star principale. Plusieurs organisations représentant la communauté juive se sont insurgées de cette présence. En quelques années, le rappeur a porté des vêtements floqués d'une croix gammée, fait l'apologie du nazisme et multiplié les déclarations antisémites. Il a depuis présenté ses excuses et attribué ses sorties à un épisode maniaque dû à sa bipolarité. La classe politique britannique dénonce la programmation de l'artiste au festival Wireless. Le Premier ministre Keir Starmer s'est dit profondément préoccupé. Le dirigeant du Parti libéral-démocrate, Ed Davey, a même appelé les autorités à interdire Kanye West d'entrer sur le territoire britannique. C'est possible en cas de risque de tension intercommunautaire. Les déclarations d'incidents antisémites ont explosé au Royaume-Uni depuis le 7 octobre 2023 et le début de la guerre à Gaza. Quatre hommes viennent d'ailleurs d'être arrêtés pour avoir incendié des ambulances appartenant à une ONG juive à Londres. Emeline Vallandre, RFI.
Prenons un peu de hauteur, on en a bien besoin. Le moment est attendu, ce sera l'apogée de leur mission. Les quatre astronautes d'Artemis 2 vont voler autour de la Lune ce soir et ils découvriront sa face cachée, les chanceux. La face qui n'est jamais visible de la Terre. Pendant 7 heures, ils pourront admirer l'astre lunaire plein cadre dans le hublot de leur vaisseau. Ils vont assister notamment à une éclipse solaire, le soleil disparaissant derrière la Lune, et à un lever et un coucher de la Terre. Anne.
Karine Bellicha pour le journal. Et on va continuer à en parler de cette mission. Tout de suite dans la fabrique du monde, Guillaume Nodin, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un exploit technologique qui met des étoiles dans les yeux des enfants et des grands-enfants.
Oui, aussi, nous aussi.
Mais il y a aussi un message de la part des États-Unis qui est envoyé au reste du monde.
Oui, il s'agit de démontrer que le pays reste la plus grande puissance spatiale capable d'envoyer des êtres humains plus loin qu'ils ne sont jamais allés avant de reposer le pied sur le satellite naturel de la Terre dans quelques années. C'est important pour Donald Trump puisque c'est lui qui a lancé le programme Artemis en 2017 lors de son premier mandat. C'est lui qui, lors de son discours d'investiture en janvier 2025, faisait de la conquête spatiale, en parlant de la planète Mars, l'un des terrains d'expansion de la sphère d'influence américaine, au même titre que la domination de son étranger proche et notamment de l'hémisphère occidental. Il présentait l'exploration et la conquête spatiale, le fait d'aller planter le drapeau américain sur d'autres astres, comme une conséquence logique de la destinée manifeste des États-Unis. C'est une idéologie religieuse selon laquelle la nation américaine aurait pour mission divine l'expansion de la civilisation d'abord vers l'Ouest, puis à partir du XXe siècle dans le monde entier et donc aujourd'hui vers d'autres mondes.
Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à viser la Lune.
Non, ils ne l'ont jamais été d'ailleurs. Dans les années 60, au moment du programme Apollo, il s'agissait de rattraper et de dépasser l'Union soviétique qui était en avance. Le concurrent des États-Unis, ce n'est plus la Russie qui, plutôt que la conquête spatiale, a choisi de concentrer ses forces sur la conquête territoriale de son voisinage immédiat en Ukraine. Le concurrent aujourd'hui, c'est la Chine. Encore une illustration du basculement géopolitique et de la concurrence systémique au niveau mondial entre les deux pays. La Chine communique moins que les États-Unis, mais elle avance. Contrairement à la NASA, elle a posé avec succès des objets sur la Lune et notamment sur sa face cachée que les astronautes d'Artemis se félicitent de voir à l'œil nu aujourd'hui. Elle a même pu ramener des échantillons de sol lunaire sur Terre dès la fin 2020. Le programme lunaire chinois est toujours en cours avec l'envoi d'êtres humains en orbite terrestre dans un premier temps et le développement de la série des fusées Longue Marche pour atteindre la Lune à l'horizon 2030.
Et là, c'est une véritable course de vitesse.
Oui, parce que dans l'état actuel du programme Artemis, la NASA prévoit d'envoyer des astronautes sur le sol lunaire en 2028, mais du retard est plus que probable et plus qu'envisageable. Les atterrisseurs américains ne sont pas prêts. Ils sont développés par les sociétés SpaceX d'Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos, deux milliardaires membres de la caste des techno-barons américains, tout comme le patron de la NASA, Jared Isaacman, fondateur d'une entreprise de paiement en ligne. Le premier système d'alunissage finalisé devra d'abord être testé au cours de la prochaine mission Artemis, qui doit rester en orbite terrestre. Cette course est donc aussi une course entre deux modèles économiques emblématiques des pays qu'ils représentent, deux systèmes, le secteur privé qui est en point, le secteur spatial.
Le mix. get up, get up. Let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up. Cause you do it right.
creusé la tête pour sauver la planète.
Alors ça devient une habitude dans l'Ours et la Carotte, chaque année au printemps, j'aime bien vous faire découvrir une aventure de pépiniériste, une aventure de personne qui fait les choses bien pour nous proposer des choses bien pour nos jardins. Et cette semaine, j'en ai pour notre première émission en Gascogne. On commence par une pépinière donc, qui s'appelle Mauvaise Graine. Mais cette mauvaise graine fait pousser de belles plantes. Et j'ai rendez-vous avec Olivier et Malvina. Bonjour.
Salut.
C'est vraiment un endroit, le panneau pour venir vous voir, c'est fait maison. On est vraiment ici sur de l'artisanal, sur du pur artisanal. On a deux tunnels tout simples et là-dedans, il y a plein de vie, il y a plein de pots et des pots que vous faites, surtout toi Olivier, que vous faites tous les deux.
Voilà, donc cette aventure, ça a commencé il y a 6 ans. On a acheté un terrain parce qu'il y avait un enfant qui voulait aller à l'école. Donc on s'est posé dans ce petit village et puis on est arrivé sur ce terrain, il n'y avait rien. Donc petit à petit, j'ai construit une première serre, commencé avec une mini serre derrière. Là, une deuxième serre un peu plus grande et après, un an après, une troisième serre. Et maintenant, voilà, j'arrive à produire ce que je veux dans mon espace.
Alors ce que tu veux, c'est intéressant parce que ce qui m'a attiré ici, c'est que je ne te connaissais pas, je ne suis pas d'ici, mais ce qui m'a attiré, c'est quand j'ai vu, je cherchais des pépiniéristes dans le coin, comme je savais que je venais par ici, j'ai vu que y a un message assez militant qui est vraiment, tu travailles à partir de graines et tu travailles à partir de graines reproductibles. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Alors oui, ce combat, c'est tout récent, on va dire, ça fait peut-être une vingtaine d'années, que les gros semenciers s'intéressent à la graine. Et pas que la graine pour les agriculteurs industriels, on va dire, aussi pour les particuliers. Donc petit à petit, ils arrivaient à mettre des brevets sur des variétés qu'ils créent eux-mêmes et imposer cette variété sur le marché de manière à ce que les anciennes variétés disparaissent petit à petit.
Voire même les faire disparaître en les faisant enlever du catalogue officiel.
Ça oui, ça, y a des politiques qui sont grassement rémunérées pour faire passer tout ça. Donc voilà, ils arrivent assez facilement à imposer leurs lois qui nous sont imposées à nous ensuite. Donc voilà, il y a un petit côté militant pour garder ce patrimoine. Déjà, ça, on peut appeler ça un patrimoine quoi, qui est très important parce que c'est des graines qui ont été reproduites depuis des générations, qui nous ont nourris. Et ce qu'on nous propose là maintenant, c'est d'aller dans le commerce pour racheter sa graine qui, elle, sera pas reproductible. Donc, vous devrez racheter tous les...